Le débat du jour. François Bernard.
Bonsoir, merci de nous accueillir à l'écoute de Radio France Internationale. Fin de la campagne électorale pour la présidentielle au Nigeria. Plus de 84 millions d'électeurs sont appelés aux urnes demain. 72 candidats briguent la présidence qui devrait se jouer entre le sortant Muhammadu Buhari et l'ancien vice-président Atiku Abubakar. Le potentiel économique et humain du Nigeria est considérable, mais le nouvel élu devra relever quelques défis majeurs. Relancer une économie stagnante, dépendante des cours du pétrole, lutter efficacement contre la corruption et combattre les inégalités sociales. La jeunesse a du mal à s'insérer par l'emploi, les rivalités régionales pénalisent l'unité des pays et la menace terroriste reste forte. Alors, le président Buhari avait promis de s'attaquer à ces problèmes. Quel est son bilan? Et de manière plus générale, quels sont les enjeux de cette présidentielle au Nigeria? On va en parler avec nos deux invités. Je vous les présente tout de suite. Et je commence avec vous, Marc-Antoine Pérusse de Monclos. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRD, rédacteur en chef de la revue Afrique Contemporaine et auteur d'un livre qui a pour titre « L'Afrique, nouvelle frontière du djihad ». C'est aux éditions La Découverte. Avec nous également Julie Vandal. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Journaliste à RFI, ancienne correspondante au Nigeria et auteur d'une série d'articles d'ailleurs sur le Nigeria à l'heure de ses élections importantes, des articles que nos auditeurs pourront retrouver sur notre site internet rfi.fr. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation sur Radio France Internationale. Alors, je vais commencer avec vous, Julie Vandal. Vous avez longuement travaillé sur le sujet, même si Monsieur Pérusse de Monclos l'a fait aussi. Comment vous résumeriez le bilan de l'action du président Buhari qui avait suscité un de grands espoirs quand il a été élu en 2015?
Bah justement, plutôt décevant, en tous les cas, c'est ce que disent les Nigérians au quotidien. Ils attendaient énormément au moment de l'élection en 2015. Muhammadu Buhari arrivait à un moment où les Nigérians en avaient quelque part un peu ras-le-bol des scandales de corruption. La croissance économique était au plus fort. Le Nigeria était à l'époque le premier producteur de pétrole du continent. Et donc, ils entendaient à un moment donné profiter de cette manne pétrolière. Et c'est vrai que Buhari se présentait comme un homme intègre, incorruptible. Et donc, les Nigérians ont fondé énormément d'espoir sur son élection. Et finalement, ça a tourné extrêmement court et très rapidement, puisque très vite, en fait, Muhammadu Buhari a mis beaucoup de temps à se positionner, à former son gouvernement. Et les 4 ans qui sont suivis ont été en fait marqués par beaucoup d'immobilisme et finalement beaucoup peu de réalisations.
Vous avez senti cette déception également?
Oh oui, sur tous les plans. Hein. Et puis Buhari a fait des déclarations malheureuses en disant que Boko Haram, par exemple, était techniquement défait. Il avait dit ça en décembre 2015 et il n'en est rien. Il avait eu aussi un prédécesseur qui s'appelait Yaradoua, qui était mort en cours de mandat et qui avait été soigné à l'étranger. Et quand il avait été élu, Buhari avait dit bah, « Moi, si je tombe malade, j'irai jamais me faire soigner à l'étranger parce que il faut que les hôpitaux fonctionnent au Nigeria. » Résultat, il a passé 6-7 mois à Londres à se faire soigner d'un cancer, dit-on. Donc c'est aussi un homme malade qui se présente, un homme âgé, un homme malade, et qui aujourd'hui ne suscite plus du tout l'engouement qui avait finalement présidé à son élection en 2015, qui était, rappelons-le, hein, en 2015, c'était la première fois depuis l'indépendance que vous aviez un changement de gouvernement par les urnes, et non pas par l'assassinat politique, le coup d'État ou la révolution, ce que vous voulez. Hein. Donc c'était quand même à l'époque aussi ça, l'espoir Buhari.
Alors à l'heure des bilans, est-ce qu'il y a quand même des choses positives qui émergent tout de même, Julie Vandal?
Alors si on peut marquer des points, on dirait la lutte contre la corruption, même si elle est extrêmement partielle, c'était un de ces trois grands thèmes de campagne. Il a mis l'accent tout le long de son mandat. Alors, beaucoup de personnes ont été arrêtées. Il y a également des enquêtes qui ont été menées. Beaucoup d'argent a également été retrouvé. Celui qui a mené cette lutte, c'est Ibrahim Magou. C'est le chef de l'agence gouvernementale anticorruption, l'IFCC. C'est un peu un shérif, fort en gouaille. Et là où c'est... Le point positif, c'est qu'il y a vraiment une dynamique. Là où c'est négatif, c'est qu'en fait, c'est incomplet parce qu'il n'y a pas eu de réforme de la justice. Donc, moyennant quoi, il y a ces arrestations, mais les gens ne sont pas traduits. La seule personnalité importante qui a été traduite devant la justice, c'est le président du Sénat, Saraki, mais il a finalement été blanchi pour on l'accusait de fausses déclarations de patrimoine. Donc, au final, c'est une lutte un peu en demi-teinte à laquelle certains Nigérians disent « Mais peut-être qu'il faut laisser du temps à Muhammadu Buhari parce que cette réforme de la justice ne peut pas être menée du jour au lendemain. »
Marc-Antoine Pérusse de Monclos, est-ce que le président Buhari peut gagner malgré ce bilan décevant?
Bon, il C'est le président sortant, il tient les rênes de l'État, du pouvoir central. Il y a eu des choses bizarres ces temps-ci. Bon, il a une parente qui est à la commission électorale, un juge de la Cour suprême qui a été démis, des millions d'électeurs qui sont apparus dans des conditions, contestables. Donc il y a des gens qui imaginent qu'il pourrait être réélu, mais avec beaucoup de fraude, ce qui nous amènerait vers un gouvernement peu légitime, contrairement à ce qui s'est passé en 2015, un gouvernement fragilisé, sachant que il ne faut pas l'oublier, ces élections, c'est pas uniquement le président, c'est aussi les gouverneurs des 36 États de la Fédération nigérienne qui ont beaucoup de pouvoir. Mmh. Ils ont la main sur la moitié en fait de la rente pétrolière, qui va aux collectivités locales et aux États fédérés. Mmh. Là-dessus, les rapports de force politique sont extrêmement importants au Nigeria, donc c'est difficile de voir un peu quel va être le vote au niveau national. Par exemple, dans un État du Nigeria, il peut arriver très couramment que l'on vote pour un gouverneur, mettons PDP, l'ancien parti au pouvoir, et pour un président qui serait APC, en l'occurrence avec Mahamadou Bouhari. D'où la complexité des choses. Mais effectivement, avec des présomptions de fraude qui vont être à vérifier, avec peut-être un taux de participation électorale assez faible, il y a beaucoup de gens qui pensent que Bouhari va quand même être réélu, mais encore une fois, du coup, son gouvernement serait très fragilisé. Et ce qui est intéressant dans ces élections, et là c'est peut-être une première depuis l'indépendance, c'est que du coup, bon, les deux principaux candidats sont des vieux routiers de la politique, assez âgés, ils suscitent pas beaucoup d'enthousiasme. Du coup, le changement, il viendrait de leur vice-président, qui sont plus jeunes et qui sont plus porteurs d'une dynamique de réforme, vous voyez. Mmh. Et donc, si Bouhari est réélu, eh bien, il faudra avoir le regard porté sur son vice-président Osinde Manjo, qui était à la manœuvre quand Bouhari se faisait soigner à Londres, et qui du coup serait amené, dans le prochain mandat, à jouer un rôle encore peut-être plus effectif pour effectivement gouverner le pays et entreprendre les grandes réformes dont il a besoin.
D'accord, alors on a évoqué Bouhari longuement, on va parler de son principal opposant, c'est un homme d'affaires, il s'appelle Atiku Abubakar, un vétéran de la politique, hein, Julie Vandal, ancien président du pays, il est le seul, vous pensez, à pouvoir rivaliser avec Mahamadou Bouhari ?
Oui, de fait, il est le seul parce qu'il appartient à l'ancien parti qui était au pouvoir pendant 16 ans, le PDP. Il faut savoir qu'au Nigeria, pour gagner une élection, rien ne se base sur un candidat qui n'a pas de parti. Il faut véritablement une machine derrière. Il faut des alliances politiques. Et aujourd'hui, les seuls partis qui sont à même d'offrir ça à des candidats, c'est l'APC, donc la coalition d'opposition qui était au pouvoir donc avec Mahamadou Bouhari, et aujourd'hui donc le PDP qui est dans l'opposition et qui soutient Atiku Abubakar. Donc oui, en l'état, c'est le seul candidat, enfin le seul concurrent en face. Il y a 70 autres candidats, mais qui ne représentent rien, puisqu'ils n'ont pas cette machine électorale qui va leur permettre d'engranger des votes.
Oui, alors il y a une femme qui s'est fait remarquer durant cette campagne, elle s'appelle Obi Ezekwesili, c'est une ancienne ministre de l'éducation, ancienne vice-présidente de la Banque mondiale. Elle était candidate, puis finalement elle a décidé de se retirer. Expliquez-nous pourquoi.
Alors c'est une raison assez mystérieuse, c'est vrai que les Nigériens portaient beaucoup d'espoir, c'est une femme forte, elle s'est illustrée notamment après l'enlèvement des jeunes filles de Chibok, des lycéennes dans le Borno, c'est elle qui a monté avec d'autres personnes, attention, le mouvement Bring Back Our Girls, donc c'est vrai qu'elle était extrêmement médiatisée, c'est une femme forte, assez brillante, c'est elle aussi qui a monté Transparency International, donc elle jouit d'une aura auprès des Nigérians et sa candidature avait été saluée. Et puis d'un coup, eh bien, au mois de janvier, elle a décidé que finalement elle se retirait de la course à la présidentielle. Et l'argument avancé qu'elle a écrit sur Twitter, en tous les cas, c'était que, eh bien, elle voulait se concentrer sur la construction d'une coalition d'opposition avec un homme fort. Alors, est-ce que c'est la véritable raison ou est-ce qu'il y a une autre raison? En tous les cas, il n'y a pas de coalition d'opposition et il n'y a pas de personnalité non plus qui s'est dégagée de tout ça.
Mmh. Alors, un petit mot d'Aboubakar d'abord, et puis on reviendra sur le rôle des femmes dans la politique au Nigeria. Marc-Antoine Perrou de Montclos.
Bon, il y a aujourd'hui une représentation des deux grands rivaux, comme quoi, bon, Bouhari est un ancien militaire, il a été dictateur dans les années 80, avant d'être élu triomphalement en 2015. Donc il incarne l'homme d'État, le nationaliste, face à Aboubakar qui est présenté comme plus libéral, homme d'affaires, entrepreneur privé. N'oublions pas cependant que Atiku Abubakar, qui était un des fondateurs, un des principaux fondateurs du PDP, le parti qui a remporté les élections après la fin de la dictature militaire en 99, Atiku, c'est aussi quelqu'un, un fonctionnaire d'État. Il était vice-président du pays et il a d'abord fait sa fortune grâce aux prébendes de l'État puisqu'il était responsable des douanes à Lagos. Donc le présenter comme l'archétype de l'entrepreneur privé face à l'État, donc favorable à la privatisation notamment de la Compagnie nationale des et pétrole, qui est un enjeu absolument énorme. C'est un petit peu amusant quand on regarde le parcours du bonhomme qui a fait d'abord sa fortune en étant haut fonctionnaire, en l'occurrence, pour les douanes à Lagos, qui est un poste extrêmement lucratif.
Alors, Obi Ezekwesili, rare femme, hein, il faut le dire, en politique au Nigeria, qui compte 5%, j'ai vu, de femmes au Parlement, quand les femmes représentent bien sûr la moitié de la population du pays. C'est peu, c'est moins qu'aucun autre pays de la région. Comment on explique ça?
C'est bizarre parce que en même temps les femmes sont actives en politique, je veux dire, il y a une vieille tradition politique, il y avait les révoltes des fiscales des femmes contre l'impôt dans les années 1928 contre le colonisateur britannique, il y avait la mère du fameux musicien Fela qui était une syndicaliste qui était extrêmement virulente dans les années 50 au moment de l'indépendance. Donc il y a cette vieille tradition politique et en même temps, il y a ce système politique machiste, pas seulement machiste, c'est également, bien qu'il y ait une loi qui a été votée en ce sens, c'est aussi un système de gens âgés qui détiennent le pouvoir, alors que la très grande majorité de la population a moins de 30 ans. Donc là aussi, il y a un problème qui se pose sur le type de candidat qui répond pas forcément aux aspirations de la jeunesse.
En fait, il y a un phénomène qui traverse aussi un peu toute la société nigériane qu'on appelle parfois un peu humoristiquement dans certains milieux, ce qui est l'ogaïsme. Ça vient de ce mot qui s'appelle ogaïsme, qui désigne en fait le patron. Et le patron, c'est un homme, c'est celui qui pourvoit. Et de fait, en fait, l'homme politique est attaché un peu à ça. Et donc, par définition, ça exclut les femmes. Et ce que je rajouterais également, c'est que la lutte politique est extrêmement violente au Nigeria. À la fois lors des campagnes, on le voit, il y a des morts régulièrement. Tous les coups sont permis. Les déclarations sont aussi extrêmement violentes. Et ce qui fait que, d'après les personnes avec lesquelles je discute parfois, même une femme qui a envie de se lancer en politique, finalement, elle n'ose pas parce qu'elle a peur. Et en plus, elle n'a pas de soutien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'encouragement à ce que les femmes participent à la vie politique. Ce qui fait que, aujourd'hui, on a une représentation, vous le disiez, au Parlement, enfin, et au Sénat, et à la Chambre des représentants, c'est autour de 5%.
Une des plus faibles du monde, quand même.
Oui, une des plus faibles du monde.
La plus faible d'Afrique et une des plus faibles du monde.
Et je crois qu'il y a 4 femmes qui sont candidates pour ce scrutin, aussi peu au niveau des assemblées, même locales. C'est-à-dire que même au niveau local, les femmes n'osent pas se lancer en politique.
Alors Marc-Antoine Pérouse de Monclos le faisait remarquer à l'instant, un des éléments qu'on observe, ce sont des candidats plutôt âgés dans un pays où la jeunesse est très nombreuse. On sent une demande de rajeunissement de la classe politique, Julie Vandal?
Oui, clairement. Et aujourd'hui, l'élection le met véritablement en exergue. C'est-à-dire qu'on a 2 candidats, l'un à 76 ans, Muhammadu Buhari, Atiku Abubakar, lui, à 72 ans. Donc, ils ont passé 70 ans, ce qui est déjà extrêmement âgé. La moyenne d'âge au Nigeria, c'est 55 ans. On meurt aux alentours de 55 ans. Mais aujourd'hui, vous avez dans cet électorat, pour cette élection, plus de la moitié des électeurs qui ont moins de 35 ans. Donc vous avez un électorat extrêmement jeune qui vont se retrouver à élire des vieux candidats. Alors il y a un mouvement qui a porté un projet de loi qui a d'ailleurs été accepté par le président Buhari il y a un an, qui s'appelle Not Too Young to Run. En gros, c'est de dire on peut, en étant jeune, se présenter à un scrutin, et ça a permis d'abaisser l'âge de la candidature, alors à l'exception des sénatoriales, mais sinon la présidentielle, la députation, ça tourne autour de 35 ans. Donc ça a suscité certaines velléités. Il y a quelques jeunes candidats, mais encore une fois, faute de machine électorale, leurs chances sont quasi nulles.
Quand Macron avait été élu en France, on voyait dans la presse nigériane, on a besoin d'un Macron, on a besoin d'un jeune. Je ne sais pas s'il le disait encore aujourd'hui. Mais...
Donc c'est un thème important de ce débat électoral, manifestement.
La question de la classe d'âge,
oui,
c'est une question parmi tant d'autres. Hein. Ouais. Maintenant, le vote, il se fait aussi sur des préoccupations très économiques, hein, très quotidiennes, le panier de la ménagère.
Mais cette envie de renouveau aussi, c'est pour combattre la corruption, finalement. C'était un engagement de M. Buhari.
Attention, parce que la lutte contre la corruption, en même temps, il y a beaucoup de gens qui profitent de la corruption, elle redistribue. Et justement, Atiku Abubakar est présenté comme un homme qui, contrairement à Buhari, a au moins un mérite, c'est que lui, il pique peut-être dans les caisses de l'État, mais il redistribue. Et du coup, ça peut devenir un argument de campagne électorale. Il sera plus généreux. Vous voyez, donc c'est un peu ambigu. Je voudrais pas qu'on présente tout le vote nigérian comme se portant sur ce ceux qui paraissent les plus intègres. D'ailleurs, Atiku a eu des déclarations assez étonnantes, hein, proposant une amnistie à partir du moment où on est un petit peu de l'argent qu'on avait piqué dans les caisses de l'État. C'est des déclarations.
Et puis ça peut être une arme politique aussi pour se débarrasser de ses adversaires.
Bien sûr, la lutte contre la corruption a toujours été une arme politique, y compris en période de dictature militaire avec Abacha. Et puis, les successeurs depuis la fin du régime militaire en 99 ne se sont pas privés de l'utiliser également pour écarter leurs opposants, y compris au sein de leur propre parti. Ça, c'est vraiment extrêmement important de le noter.
L'enjeu sécuritaire, peut-être pas avec vous.
Enjeu sécuritaire. Là aussi, une déception.
C'est important.
Bouhari, ancien militaire, apparaissait comme un homme qui allait être capable de défaire Boko Haram. Il n'en est rien. Boko Haram, l'année dernière, a tué entre 800 et 900 militaires nigérians. C'est vraiment pas rien. C'est pas un groupe qui fait uniquement des attentats-suicides pour tuer des civils. C'est un groupe qui a toujours ciblé des militaires, quoi qu'il en soit des allégeances à Daesh ou ce que vous voudrez. C'est pas ça qui a changé les lignes. Donc c'est un groupe qui continue de tendre des embuscades et de tuer des militaires. Et on a des vidéos, on voit en fait que les militaires continuent d'être très mal ravitaillés. Donc il y avait l'espoir que Bouhari, en tant qu'ancien militaire, allait enfin réformer l'armée. Et c'est précisément parce que c'est un ancien militaire qu'il n'a rien fait, parce qu'il voulait pas entacher la réputation de l'armée. Donc on voit qu'il y a toujours énormément de corruption. Les soldes sont pas forcément payés à temps. On voit des soldats qui se plaignent parce que les vivres ont été détournés, ils n'ont pas de munitions, pas d'équipement, etc. Quand on a des échos de la coalition antiterroriste contre Boko Haram qui s'est montée avec des pays francophones de la région autour du lac Tchad, Niger, Cameroun, Tchad, avec lesquels d'ailleurs la France a des accords de défense, ce qui n'est pas forcément le cas toujours exactement au Nigeria, mais de ce côté-là, on se plaint effectivement qu'à partir du moment où il y a des actions qui sont menées sur les territoires nigérians, l'armée nigériane ne vient pas prendre le relais. Dans le Morne rural, en fait, il y a une situation de vide politique et militaire qui explique la résilience du groupe Boko Haram. C'est pas parce qu'il y aurait une allégeance à Daesh que le groupe continue de combattre, c'est parce qu'en face, il n'y a rien. Donc là, il y a eu effectivement un gros souci du côté de Bouhari, et là, les espoirs aussi de réforme de l'appareil sécuritaire ont été extrêmement ont été déçus.
Il nous reste à peine 2 minutes. Qu'est-ce qu'on peut dire, Julie Vandal? Vous avez vécu dans ce pays pendant longtemps. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette démocratie au Nigeria, du processus électoral lui-même dans ce pays immense et le plus peuplé d'Afrique?
C'est un peu la grande incertitude avec ce scrutin, parce qu'en 2015, la transition démocratique et pacifique, le passage du pouvoir de Goodluck Jonathan, donc était avec le PDP à l'APC, c'était la première fois, Marc-Antoine Pérouse de Monclos le soulignait. Ça s'est fait pacifiquement. À un moment, il y a eu une petite période de tension où on a cru que Jonathan n'allait pas lâcher le pouvoir, et puis finalement tout s'est bien passé dans le calme. Et là, c'est vrai que la tension semble monter, et la grande question, c'est est-ce que finalement l'INEC, la commission électorale, sera à même d'organiser ces élections. 84 millions d'électeurs dans des conditions sécuritaires, on l'a rappelé, qui sont assez compliquées, et avec donc cet enjeu, est-ce que Bouhari va s'accrocher au pouvoir ou pas? Est-ce que les élections vont se dérouler dans le calme ou pas? Donc il y a beaucoup de facteurs, un peu d'incertitude, qui quelque part remettent un peu en cause la victoire de 2015.
Et le taux de participation électorale sera important aussi, mais évidemment quand vous comparez le Nigérien avec ce qui se passe en termes d'élections au Tchad avec M. Idriss Déby au pouvoir depuis 1990, ou bien M. Paul Biya au pouvoir au Cameroun depuis 1982, il n'y a pas photo. Au moins au Nigeria, il y a de la compétition, c'est beaucoup plus dynamique, il y a des vraies élections. Après, il y a de la fraude, oui, c'est indéniable, le système politique est mafieux, mais il y a quand même des possibilités d'ouverture, c'est pas complètement figé, donc on peut avoir un petit peu cette note d'optimisme, quoi qu'il en soit du bilan plutôt mitigé du président sortant.
Et au Nigeria, je l'ai vu dans les dépêches AFP aujourd'hui, on a prié pour la paix et le calme lors du scrutin de samedi. On sait quand les résultats sont attendus?
Dans les 48 heures qui suivent le scrutin, normalement.
Alors, bien évidemment, à suivre. Merci à tous les deux. Julie Vandal, journaliste à RFI, ancienne correspondante au Nigeria. Et je rappelle que vous êtes l'auteur d'une série d'articles sur le Nigeria qu'il faut aller lire si vous vous intéressez à cette problématique à l'heure de ces élections, que vous pouvez donc retrouver sur notre site internet. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, directeur de recherche à l'IRD, rédacteur en chef de la revue Afrique contemporaine et auteur de L'Afrique, nouvelle frontière du djihad aux éditions La Découverte. Merci également à Déborah Lepage qui a préparé cette émission, à Fabrice Violet qui l'a réalisé, à Emmanuel Sévin à la documentation. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.